RTL Matin. Laissez-vous tenter.
9h15, laissez-vous tenter. On retrouve tout de suite Stéphane Boutsock pour notre séance cinéma du jour. Bonjour Stéphane.
Bonjour Yves, bonjour tout le monde.
Et vous nous proposez ce matin une rencontre avec Lambert Wilson, dont un des films récents, Les Traducteurs, vient d'arriver sur les plateformes VOD.
Ouais, j'avais adoré ce thriller littéraire réalisé par Régis Roinsart, sorti en janvier, qui raconte comment 9 traducteurs réunis par un éditeur dans une maison bunker doivent livrer, chacun dans sa langue évidemment, le dernier best-seller d'un auteur mondialement connu. Sauf que l'un d'entre eux diffuse les pages du bouquin au fur et à mesure sur Internet.
C'est bon.
Qui... Pourquoi? Comment? Oui, l'intrigue est épatante. Réponse à la fin de ce film haletant dans lequel Lambert Wilson joue le rôle d'un éditeur sans scrupules.
Alors, ce que vous nous décrivez là ressemble de manière assez troublante au confinement que nous venons de vivre,
oui.
Non?
Oui, absolument. Et j'ai fait remarquer à Lambert que Les Traducteurs étaient peut-être en effet une sorte de film prophétique.
Un confinement un peu extrême, un petit peu violent, étouffant, des cauchemardesques parfois. J'espère que le confinement ne s'est pas passé de cette façon-là pour tous les Français ou les habitants de la planète, mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'anticipation, c'est vrai. Je pense que le public a un peu de mal à identifier ce que va être ce film. C'est un peu comme le Cluedo, comme dans les romans d'Agatha Christie. Alors, jouer le méchant, parce qu'en l'occurrence, c'est le méchant de service, je trouve ça très jubilatoire. Ce qui était passionnant dans le film, et pour le public qui ne sait rien sur ce film, c'est que c'est une réunion d'acteurs internationaux. Et ça, c'était merveilleux. C'est-à-dire d'être une troupe d'acteurs qui travaillent tous ensemble et avec des cultures différentes, des langues différentes, des méthodes de travail différentes. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une bénédiction.
Alors, on parlait de confinement. Rappelez-vous que mi-mars, quand tout s'est arrêté, y compris le cinéma, un autre film avec Lambert Wilson était à l'affiche, De Gaulle, de Gabriel Le Bomain, bah oui, avec Isabelle Carré. Le démarrage avait été vraiment exceptionnel, mais après 10 jours à l'affiche, patatras, la chienlit, comme aurait dit le général.
Oui.
Eh bien, bonne nouvelle, De Gaulle va faire son retour au cinéma dès la réouverture des salles.
Ils ont pris la décision, je crois que je peux l'annoncer, d'attendre l'autorisation de reprojeter des films pour que De Gaulle soit un des premiers films présents sur les écrans. Parce que finalement, il s'agit aussi, dans l'évocation de De Gaulle en juin 40, de la notion d'un effort collectif, de la lutte contre un ennemi invisible pour lequel on doit unir ses forces. Et il y a tout ce discours fédérateur de De Gaulle qui, je pense, serait très intéressant à entendre maintenant.
Maintenant, justement, la culture est un secteur dévasté, lui aussi, par la Covid-19. Lambert Wilson attend et essaye d'espérer.
J'étais en tournée du Misanthrope, j'avais un film à Cannes, je devais tourner dans Matrix, tout s'est arrêté. C'est une situation très, très difficile à vivre. Pour créer, il faut quand même l'espoir qu'on sache qu'il y a un jardin quelque part dans lequel la plante pourra se développer. Or là, ça bloque énormément la légèreté et l'inventivité. Parallèlement à ça, dans ma vie personnelle, j'ai trouvé que c'était merveilleux parce que ça fait des années que j'aspirais à vivre un moment sabbatique. Ça ne fait pas peur parce que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai retrouvé ma maison, j'ai été privilégié de pouvoir être à la campagne. J'ai fait le ménage dans ma vie et dans mon esprit, ça a été très très bénéfique. Mais je ne pense pas que ce soit une période de création. Je me force à lire en me disant « je trouverai une idée géniale, une pièce, un rôle ». Je lis peu et lentement et mal. Donc voilà, je jardine très bien, mais je lis mal.
Lambert Wilson, de retour donc bientôt au cinéma dans De Gaulle, et pour l'instant en VOD avec le film Les Traducteurs de Régis Roinsart.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock, vous nous annoncez un De Gaulle qui sera pas mal du tout.
En novembre, il y aura 6
voilà.
épisodes, signé Jacques
télé.
Santamaria, Patrice Duhamel avec Samuel Labarthe et Constance Dolé, c'est prodigieux aussi.
On va maintenant retrouver Monique Younes. Bonjour Monique.
Bonjour.
Quelque chose me dit, même déconfiné, que vous ne quittez plus vos pantoufles.
Ben, il faudra bien, malheureusement. Mais j'ai l'intention de les envoyer au Muséum à Marseille, parce que le Musée des Civilisations collecte jusqu'au 31 mai les objets qui symbolisent notre quotidien confiné. Et la pantoufle a une place centrale dans l'art.
Ben, tout cela avec un petit verre de chloroquine, ça ne fera pas de mal à Marseille.
Bien sûr.
Ça alors, on ne s'en serait pas douté, dites donc.
Ben, déjà, la chaussure d'intérieur occidentale trouve son origine dans la babouche orientale, dont les plus anciennes étaient décorées à la feuille d'or. On les a trouvées dans les tombes coptes du IIe siècle. Et 17 siècles plus tard, les peintres orientalistes se sont littéralement jetés sur la babouche, notamment Delacroix. Il en a peint plusieurs études conservées au musée Delacroix à Paris. en vue de les enfiler aux pieds de ces femmes d'Alger dans leur appartement et surtout aux concubines du roi d'Assyrie dans votre tableau préféré, Yves, La mort de Sardanapale, deux chefs-d'œuvre qu'on trouve au musée du Louvre.
Grand choc érotique de mon enfance. Alors, ça c'est pour la peinture, en littérature, qu'est-ce qui se passe?
Et parmi les plus célèbres pantoufles, celle de Cendrillon.
Mais oui.
Charles Perrault a été le premier écrivain à donner autant d'importance à la pantoufle, dont il a fait à la fois un enjeu de pouvoir, de revanche sociale et de féminité. Mmh. La dimension sensuelle, érotique du pied de Cendrillon n'a échappé à personne. Et cette pantoufle de verre a influencé quantité d'écrivains, fétichistes ou pas, notamment Flaubert dans l'éducation sentimentale et surtout dans Madame Bovary, dont les pantoufles en satin rose offertes par Léon confinent, si je puis dire, à l'extase quand elle s'asseyait sur ses genoux, écrit Flaubert. Sa jambe, alors trop courte, pendait en l'air et la mignarde chaussure, qui n'avait pas de quartier, tenait seulement par les orteils à son pied nu. Ça vous donne des idées, non?
Oui, ça donne des idées. Monique, des enfants peuvent vous entendre, je vous en prie.
Oui, alors je reviens à la peinture qu'ils ne peuvent pas voir. Prenez l'exemple de Fragonard, avec son tableau « Les hasards heureux de l'escarpolette ». Vous savez, cette jeune bourgeoise sur sa balançoire qui lance sa mule rose dans les airs sous le regard de son amant caché derrière un buisson. Elle est l'ancêtre de la pin-up excentrique, avec sa mule à pompons qu'on trouvera dans la bande dessinée et aussi dans Playboy. Et aussi, il y a l'exemple de Manet, avec son Olympia, toujours confinée au musée d'Orsay, toute nue, mais un pied, un seul pied chaussé d'une mule.
Alors, cachez ce petit peu de ton que je ne saurais voir. Et du côté des hommes, quid de la pantoufle, même si c'est un peu moins sexy, a priori?
Écoutez, la plus sacrée, c'est la pantoufle papale, rouge sang. Alors, les peintres aimaient la représenter sous la soutane. Oui, mais il y a deux sortes de mule. La pantoufle pour l'intérieur et la mule aussi rouge pour l'extérieur.
Voilà.
Quoi, vous voyez? Alors, les peintres adoraient la représenter sous la soutane blanche du souverain pontif, à commencer par le portrait du pape Paul V, chef-d'œuvre du Caravage, conservé à la Galerie Borghese à Rome. Et la reine d'Angleterre possède le portrait en pantoufle du pape Pie VII, peint par Thomas Lawrence. Alors, pour la petite histoire, jusqu'en 1775, il était de règle pour les pèlerins ayant obtenu une audience papale de s'agenouiller et de baiser une des pantoufles du Saint-Père, c'est Pie VI, qui a mis fin à cette pratique.
J'ai une très bonne adresse pour des mules de gondoliers à Venise, mais on en parlera une autre fois.
Très très cher, moi aussi j'adore ça.
Où sont les neiges d'antan?
Mais écoutez, elles reviendront, rassurez-vous. Vers la fin du 19e siècle, la pantoufle masculine devient l'apanage des écrivains confinés. Leurs pantoufles sont très très chics, très colorées, mais très vite elles se démocratisent et c'est la gloire de la Charentaise. Elle a aujourd'hui son musée, la Charentaise, au château de Varennes en Dordogne. Mais pour trouver de l'érotisme dans le port de la Charentaise, il faut sans doute s'appeler Jeff Bridges dans The Big Lebowski des frères Cohen. Mais on aura beau faire, Yves, c'est toujours vers la robe de chambre qu'on lorgnera, dans l'espoir qu'elle s'en trouve.
Quel merveilleux moment. Merci Monique Younes. On va tout de suite retrouver Anthony Martin, parce qu'on n'est pas très en avance avec toutes mes remarques idiotes.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est l'heure de notre pépite musicale. Qu'avez-vous choisi pour nous ce matin?
Alors si j'ai bien suivi la météo du jour, c'est chaleur et globalement soleil sur tout le pays. Je vous propose donc une chanson de circonstance, Sunny, un classique du grand répertoire américain. Il en existe des centaines de versions. Alors non, ce n'est pas une chanson du groupe Boney M. Sunny est un titre de 1963 signé Bobby Ebb, un musicien afro-américain qui a alors 25 ans. Ce sera d'ailleurs son seul trophée, mais quel trophée. Bobby Ebb a écrit Sunny pour calmer sa douleur le 23 novembre 1963, au lendemain de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il perd son frère, poignardé dans une bagarre devant une boîte de nuit. Et c'est pour éviter de sombrer qu'il écrit Sunny, un hymne au beau jour. Une des interprétations les plus acrobatiques et lumineuses de cette chanson a été enregistrée en mai 1969 en studio à Hollywood par Ella Fitzgerald. C'est certainement la performance la plus pop de cette immense voix du jazz, ici accompagnée par un orchestre de 30 musiciens. C'est notre pépite, Ella Fitzgerald chante Sunny.
Sunny. Oh, sunny one, so true. I love
Gérald, et ses presque 3 octaves dans la voix fait vraiment des merveilles sur ce classique Sony. Le morceau n'est qu'un crescendo, à son auteur l'avait voulu comme ça et ça lui va si bien. On retrouve cette version dans un album de reprise sorti par Ella Fitzgerald en 1970. Elle reprenait aussi dans ce disque la chanson du film Un homme et une femme. Ça c'est une autre pépite, c'est un autre jour.
Ah bah on a passé un très bon moment en tout cas. Ouais, merci Anthony, à demain. C'est une petite réverbération. Alors, on rappelle d'abord pour la télévision Isabelle Morini-Bosque sur Paris Première la diffusion de Max et les Ferrailleurs en hommage à Michel Piccoli.
Oui, ben, Michel Piccoli, j'y arrive, c'est finalement Max, un flic froid se faisant passer pour banquier afin d'arrêter un gang qu'il pousse à la faute. Il en fait un Max, justement, il va faire le patron après tomber amoureux de la prostituée Lily Romy Schneider.
T'es banquier ?
Oui.
T'es riche alors ?
Voilà. En face, sur la 2, le grand échiquier avec ses artistes en direct. Le direct, c'est dans leur corps. Il n'y aura justement pas d'instrument avant. Bien sûr, respect des distances. Alors, c'est sûrement bon, mais c'est assurément long. Alors, de la distance, permettez-moi d'en prendre pour me concentrer plutôt sur 3 fictions réussies dans 3 genres différents.
Okay.
Petit A sur Arte, Au nom du père. Formidable feuilleton danois racontant l'histoire d'une famille de pasteurs soumise à Johannes, un luthérien pas très catholique. C'est pas très drôle non plus. Petit B sur M6. Alors là, fin magnifique, parfaite de Why Women Kill. 10 épisodes montrant 3 femmes bafouées vivant dans la même maison à 3 époques différentes. Le puzzle est achevé, mais j'adore. Et le couple de 1984, qui semblait le plus superficiel, va se révéler absolument grandiose. C'est Carl et sa femme Simone, lui gay, elle peste officielle. On revit l'achat de la maison.
Cet endroit a un fabuleux potentiel.
En effet, la conception est bonne, mais alors franchement, la couleur de ces murs, c'est...
Bien, avant d'aller plus loin, la loi m'oblige à vous informer qu'un meurtre a eu lieu ici même.
Quelqu'un a été assassiné dans cette maison ?
Sûrement le décorateur.
Voilà. Moi, j'adore. La voix française de Carl, c'est l'excellent comédien Jean-Pierre Michael, qu'on a entendu justement expliquer le doublage dans Orphée la télé de Jade et Éric Dussard. C'est merveilleux, franchement, quand une fiction drôlement grinçante, se révèle tellement plus et tellement mieux que ça. C'est ma fiction de l'année. C'est la fin parfaite, parfaite. Alors, ça ne m'empêche pas d'apprécier Petit C, Cassandre. Oui. Rediffusion ce soir. Le public soutient parfois plus que la chaîne ce polar franco-français tourné à Annecy, dans lequel Gwendoline Amon, splendide rousse, petite fille de l'écriture, écrivain Jean Anouilh, est absolument époustouflante de naturel, tous d'ailleurs. Hein. Mireille Mathieu avait dit sur RTL que c'était sa fiction préférée et Gwendoline Amon l'avait écoutée.
Ah, très bien.
Ah, mais donc, c'est extraordinaire, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Merci Mireille.
Moi aussi, j'aime beaucoup Cassandre.
Oh, merci.
Plus que France Télévisions, parce que c'est vraiment une série portée à bout de bras par le téléspectateur.
Oui, oui, c'est vrai. C'est un pilote au début, on ne savait pas du tout où on allait. On s'est tout de suite tous beaucoup aimés. On ne vient pas cachetonner. Ça nous prend 21 jours par épisode. Maintenant, on les tourne par deux, un peu plus de 40 jours. Vous voyez une minute de séquence, mais elle a mis 6 ou 7 heures à être tournée. Quelquefois, on descend en cordée pour que vous ayez une vue sublime. Mais nous, on a mis 2 heures à y aller, 4 heures à la tournée. Quand je cours 10 secondes, en fait, j'ai couru 4 heures.
Il n'y a pas un Cassandre qui a été arrêté par la pandémie ?
Non, alors moi, j'étais en train de tourner Grand Hôtel pour TF1 et ça a été arrêté. On va le reprendre en juin. Et je vais tourner 2 Cassandres entre le 20 juillet et le 15 septembre. Et puis 2 autres très vite après, ce qui va être un peu lourd. Mais encore une fois, quand on a la chance d'avoir du travail et en plus de faire un travail qu'on aime, on ne se plaint pas, on dit merci à l'univers.
Voilà, j'aime beaucoup cette comédienne, j'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup cette fiction. Voilà, donc Why Women Kill et Cassandre, c'est mes 2 petits bonheurs du jour.
Merci Isabelle.